Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paye pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Alors là, de quoi est-ce que Marx nous parle? Il nous parle de ce qu'on appelle le travail abstrait. Le travail abstrait, c'est-à-dire du travail indéterminé, du travail interchangeable, du travail sans qualité. Quelqu'un qui peut travailler à une tâche, puis passer à une autre, ou même à une autre usine, sans transition.
Pour décrire l'activité humaine, le travail et l'emploi apparaissent comme deux termes interchangeables. De façon ordinaire aujourd'hui, c'est l'emploi qui est le plus souvent utilisé pour désigner le travail.
Travail et emploi renvoient à deux conceptions qui ne sont pas identiques, me semble-t-il. Dans le travail, on voit quelque chose de physique. On sent un processus de l'ordre physique, de l'effort qui est consenti. Dans l'emploi, il y a déjà une forme d'institutionnalisation du process de travail. La preuve en est qu'on dit souvent que le chômage est une invention. Si vous allez dans mon village au Togo, ben la notion d'emploi, elle va être relative, puisqu'il y a des périodes où les gens ne font pas grand-chose, parce que les terres sont en friche, il faut les laisser se reconstituer. Et puis il y a des périodes où les gens vont travailler énormément. Et donc, la notion d'emploi, de ce point de vue, elle va être liée au mode ou au process d'institutionnalisation dans la société. Alors, il y a un ancien directeur de l'Agence française de développement au Burkina Faso qui m'a dit une fois, Kako, t'es producteur de coton, il faudrait pas les payer beaucoup parce que lorsqu'ils ne produisent pas le coton, ils ne font rien d'autre. Et il me dit, il faudrait les utiliser, ces producteurs, pour nettoyer les pistes rurales pendant les périodes où ils ne cultivent pas. Et donc je lui ai dit, vous, pendant vos congés d'été en France, il faudrait vous utiliser pour aller nettoyer la tour Eiffel, puisque vous ne travaillez pas pendant vos congés. Bon, il n'était pas très content, mais c'est quelqu'un qui était un coopérant français en Afrique qui n'avait toujours pas compris qu'une société a ses rythmes, a ses valeurs, a ses traditions et a sa conception du travail et a sa conception de l'emploi.
L'emploi, c'est un échange entre je renonce à toute liberté, à toute prise sur ce que je vais faire, et en échange, j'ai une sécurité économique et physique minimale ou optimale. Et le champ de la justice sociale, le périmètre de la justice sociale, se restreint à des échanges de quantité. Il y a eu un débat qui retrouve une grande modernité aujourd'hui avec les débuts du taylorisme, qui a parcouru la gauche politique et syndicale. On s'est demandé, bon, nous avons des masses humaines entières qui sont assignées à un travail d'esclave. Ça a été montré magnifiquement par des artistes, hein. J'évoquais Chaplin, on pourrait penser à Fritz Lang aussi. Ça saisit ce moment historique, il y a un siècle exactement. On se dit, mais quel monde est-on en train de construire? Et disons, il y a eu deux réponses possibles. La réponse qui a finalement gagné historiquement et qui a donné lieu à la naissance de l'emploi, c'est de dire, eh bien, il faut cet assujettissement à un travail privé de sens, c'est le prix à payer pour la modernité technique. Il y a une science de l'organisation du travail qui nous oblige à traiter les êtres humains comme des rouages. et donc à les priver de l'expérience du sens dans ce qu'ils font.
Employment generally means a job.
L'emploi, ça signifie généralement un job. Donc on travaille pour quelqu'un d'autre. Dans l'histoire de l'Europe, travailler pour quelqu'un d'autre était considéré comme une activité réservée essentiellement aux plus jeunes, à ceux qui n'étaient pas encore adultes. Ce n'était pas quelque chose que l'on faisait de manière continue, sauf l'apprentissage. Au Moyen Âge, tout le monde devait travailler chez quelqu'un d'autre, être serviteur par exemple. Et cela, pas seulement pour les artisans, les agriculteurs ou les domestiques. Il y avait des nobles qui servaient la noblesse plus haute. Tout le monde, de haut en bas, devait passer du temps à travailler pour un autre. Ce qui était considéré comme un service est ce que nous considérons aujourd'hui comme un emploi. En allemand, il y a l'activité. L'emploi et le travail sont quasiment synonymes. L'emploi inclut l'activité indépendante libérale. On pourrait peut-être faire cette distinction entre le travail du travailleur indépendant et celui du travailleur salarié. Mais la distinction lexicale, idéologique, n'est pas très claire. Le travail, c'est le fait de travailler. L'emploi, c'est le fait de travailler dans un marché formel. Il y a un capitaliste, il y a un travailleur, il y a un accord professionnel formel selon lequel le travailleur va travailler 8 heures pour un salaire donné. Vendre des boîtes d'allumettes dans la rue, c'est du travail. Ce n'est pas de l'emploi.
Ce que l'on veut, c'est avoir un emploi. Voilà. Et on se préoccupe moins de la question travail. On veut, pour être dans la société, pour avoir des revenus, parce qu'on est stigmatisé lorsque on n'a pas d'emploi, eh bien, on cherche à avoir un emploi en oubliant la dimension travail, ce que peut être la signification du travail que l'on effectue, ou bien les conditions de travail dans lesquelles on va réaliser cette relation d'emploi.
La définition de l'emploi de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, part du principe que quelqu'un qui est rémunéré plus d'une heure par semaine est employé. Pour moi, c'est une blague. Quelqu'un qui distribue les journaux le matin, on ne va pas me dire qu'il est employé. Ce n'est pas un travail qui lui permet de nourrir sa famille. C'est une astuce pour dorer la pilule. De plus en plus de personnes sont censées être employées, mais sont en fait au chômage. On les a éliminées de la statistique afin que les chiffres soient plus présentables. En Allemagne, le parti au pouvoir prétend qu'on est au plein emploi, mais ce n'est pas vrai.
Nous entendons souvent parler d'emploi, tous les jours, en lisant le journal, en écoutant la télévision. Parce que l'emploi auquel on fait référence là, ça n'est pas le travail, c'est l'emploi au sens macroéconomique. C'est-à-dire que ça permet effectivement de parler de politique de l'emploi, niveau de l'emploi, etc., etc. Or, dans ce cas-là, on fait référence à quelque chose qui, si on réfléchit, n'est pas à proprement parler un emploi individuel, mais une somme d'emplois.
Du point de vue macroéconomique, l'emploi, c'est une statistique. D'accord ? C'est le nombre de personnes qui, à un moment donné du temps, occupent une position, ont effectué un travail sur une période de temps donnée, par exemple. D'accord ? Donc on dira qu'on est au plein emploi s'il n'existe pas ou s'il existe peu de personnes qui sont censées travailler, cherchent un emploi à un moment donné du temps et n'en trouvent pas. D'accord ? Donc ça, c'est l'emploi. Mais effectivement, c'est pas le travail.
Alors, il y a cette inversion lexicale qui, à mon avis, est un, enfin, que j'ai jamais pu m'empêcher de voir comme un symptôme du déni qu'opère le discours de la théorie économique, le discours de la science économique. C'est que dans la vie ordinaire, les gens demandent un emploi. Et dans la théorie économique, les salariés offrent du travail. Donc tout est mis cul par-dessus tête.
Pendant l'ère industrielle, les conditions de l'emploi se sont codifiées et d'une certaine manière ossifiées. En mai 68, notamment en France, les salariés réclament plus de liberté et d'initiative.
Si on a une forme de travail qui est en permanence interchangeable, une forme de travail qui n'a pas de qualité, qui est du travail sans qualité, du travail que n'importe qui peut faire et qu'on peut aller faire n'importe où, finalement. Il semblerait que ce travail-là, ça correspondait bien au temps industriel. Ça correspondait bien à une période qui va, je ne sais pas, disons du début du 19e siècle jusqu'aux années 1900-1960. Au moment où on va avoir à la fois une production et une consommation de masse. Et puis, on a eu tout un discours à partir des années 1970, tout un discours autour de la différenciation du produit. C'est-à-dire qu'on va plus produire, on va plus produire des deux chevaux grises en série avec toutes les mêmes options, mais tout un tas de produits qui vont être différenciés en fonction des goûts du consommateur. Et que ça va amener également la différenciation des tâches de l'ouvrier. L'ouvrier va pouvoir être plus polyvalent. C'est tout le discours autour non plus du taylorisme, du travail parcellisé à la tâche, mais du toyotisme. C'est-à-dire que les ouvriers vont pouvoir changer de tâche, on va avoir des contrôles de qualité, on va remonter la chaîne du travail, etc. Et puis, avec l'arrivée des nouvelles technologies dans les années 80-90, on a encore un discours autour du travail qui se requalifie, au sens où on va avoir besoin de personnes très hautement qualifiées qui vont pouvoir appliquer leurs compétences à des outils complexes.
Autour de 68, dans tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France, où il y a eu quand même 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, il y a eu une remise en cause globale des règles du jeu taylorien-fordien dans les entreprises. Et ce qui était intéressant, c'est que a émergé, sous le slogan par exemple de « ne pas perdre sa vie, elle a gagné », une volonté de la part des travailleurs de pouvoir s'épanouir et se réaliser dans le travail, de pouvoir justement y mettre du sien tout en étant reconnu pour les qualités qu'on mettait dans son travail. Et donc les salariés, surtout les ouvriers, demandaient de la dignité, mais un peu plus d'autonomie, plus de liberté au travail, plus de reconnaissance pour les qualités mises dans le travail et la qualité de l'engagement. Et cette révolte a vraiment traumatisé le patronat parce que les directions d'entreprise, employeurs, étaient persuadés qu'ils n'arriveraient pas à remettre au travail cette classe ouvrière aussi révoltée. Donc il fallait trouver un moyen pour continuer à exploiter cette main-d'œuvre avec leur consentement. Avec leur consentement. Et a émergé véritablement un nouveau modèle managérial qui s'est fondé sur un socle très intéressant de leur point de vue d'employeur, c'est de procéder à une individualisation de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Et ça, c'était un véritable cheval de Troie, parce que, évidemment, ça permet d'inverser le rapport de force qui s'était manifesté de façon tellement défavorable, mais en même temps, le patronat a développé toute une rhétorique pour dire, un petit peu comme De Gaulle disait à l'époque, « Je vous ai compris », il a dit, « Nous avons compris ce que vous voulez. Vous voulez, vous les salariés, de la liberté, de l'autonomie, de la reconnaissance, de la dignité. Nous allons vous la donner, mais ça